et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Le dialogue des religions de ce mercredi 24 février 2016, les efforts des États-Unis en vue de promouvoir dans le monde la liberté religieuse, un principe inscrit dans la Constitution américaine. Au micro, Idrissa Sidoudia en compagnie de mon collègue Kadiatou Traoré. Kadiatou, bonsoir.
Bonsoir Idrissa.
Notre invité ce soir, Doudou Diène, le rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies sur le racisme et ancien directeur de la Division des politiques culturelles et du dialogue interculturel pour une culture de paix de l'UNESCO. Bonsoir, Monsieur Diène.
Bonsoir.
Merci, Monsieur Diène. Pour la jeune génération, je dois dire que Monsieur Diène était à la pointe du combat pour le nouvel ordre mondial de l'information quand, à l'UNESCO, avec Amadou Martarmo, dans les années 80, le président Ronald Reagan et son administration se sont farouchement opposés à cette revendication du tiers-monde. Kadiatou, voulez-vous rappeler aux auditeurs comment ils peuvent participer à l'émission ?
Alors, Idrissa, ils peuvent nous appeler au 001 202 619 31 40 ou encore envoyer des SMS au 225 58 92 85 40 et au 221 765 727 293.
Merci Kadiatou. Pour camper le sujet, une série de bureaux et d'agences ont été créés dans les années 1990 par le gouvernement américain pour surveiller les persécutions religieuses à travers le monde. Pour beaucoup de défenseurs de la liberté religieuse, on a plus que jamais besoin de tels bureaux et agences. Mais selon des détracteurs, il ne s'agit là que d'une forme déguisée de néocolonialisme. Timothée Donangmaï.
La Constitution des États-Unis dit clairement que chaque Américain a le droit de pratiquer la religion de son choix sans avoir une religion d'État. La question est de savoir si cela devrait s'appliquer aux autres pays, beaucoup pensant que cette clause constitutionnelle est l'incarnation même d'un principe universel.
La défense de la liberté religieuse est, d'une certaine façon, la défense de ce que cela signifie d'être humain.
Katrina Lantos-Sweat est présidente d'une agence gouvernementale américaine qui, chaque année, publie des cartes montrant les pays du monde qui violent le plus la liberté religieuse.
Si nous pouvons encourager et amener les pays à comprendre cette idée, à savoir que nous devons faire un meilleur travail dans la création de ce genre d'espace public, où en toute sécurité, les gens de toutes les foies religieuses sont libres de suivre en paix, ouvertement et sans crainte leurs croyances. Cela permettra à ces pays de construire sur plusieurs fronts des sociétés plus tolérantes et plus stables.
Mais tout le monde ne le voit pas ainsi à Washington. La politologue Elizabeth Hurt de Northwestern University, lors d'un récent séminaire au Centre de recherche transatlantique.
Je considère en réalité ce programme des États-Unis comme le dernier exemple d'une longue série d'efforts pour promouvoir les intérêts stratégiques et économiques des États-Unis à l'étranger, en partie par le truchement de l'ingénierie sociale et religieuse.
La professeure Hurt trouve même qu'il y a deux poids, deux mesures.
Nous nous voyons comme étant parvenus à la liberté religieuse. C'est quelque chose que nous avons. Mais quand il s'agit des autres peuples, nous devons la gérer en quelque sorte. Nous avons tout le monde dans l'appareil politique étrangère travaillant pour créer à l'étranger des gens tolérants, ce qui est quelque chose que le gouvernement, paradoxalement, ne ferait jamais chez nous.
Pour les détracteurs du gouvernement américain, la liberté religieuse est un concept occidental qui pourrait perturber certaines sociétés. Visitant une église évangélique à Myanmar, l'ambassadeur américain pour la liberté religieuse, David Saperstein, pose des questions sur des allégations de violation de ce droit. La réponse d'une chrétienne birmane.
If the government would actually
Le gouvernement ne voyait pas les gens ou ne les séparait pas comme des gens différents. S'il traitait simplement les gens comme des citoyens, la citoyenneté, cette identité, devrait être la première considération.
En fait, cette citoyenne birmane dit plus ou moins ce que dit la Constitution des États-Unis.
Merci, Timothée Donangmaï. Alors, Monsieur Dien, vous avez suivi ce reportage de Timothée? Monsieur Dien?
Oui, j'entends.
Oui, vous avez entendu ce reportage?
Oui, j'ai bien entendu absolument le reportage.
Alors, tout de suite, je vous pose la question. Principe universel ou tentative d'imposer des valeurs occidentales ou même de promouvoir des intérêts stratégiques et économiques?
Principe universel, parce que c'est dans le pacte sur les droits civils et politiques. Et je crois que c'est un principe qui est accepté par la plupart des défenseurs des droits de l'homme, d'abord évidemment, mais aussi dans la majorité des pays. Et je crois que aussi c'est une condition pour la paix et le dialogue entre les nations. Donc c'est un principe. Maintenant, comme tout principe, il est instrumentalisé selon les contextes historiques. Et donc c'est ça la question qu'il va falloir éclairer et creuser.
Alors, on a vu ce rapport, par exemple, que publie chaque année le département d'État américain sur la liberté religieuse dans le monde. Beaucoup d'États y sont épinglés et récemment, c'était des organisations, un phénomène assez nouveau, des organisations comme l'État islamique, le groupe État islamique. Mais il y a certains pays qui continuent d'avoir une seule religion, d'imposer cette religion, et aucune autre n'est permise. Comment est-ce que cet état de fait peut continuer?
Je crois que c'est le résultat de l'histoire de chaque pays et de chaque région. Mais je crois que le principe du pluralisme religieux, c'est-à-dire l'acceptation de la diversité des fois et des traditions religieuses, qui est un fait historique qui a accompagné l'histoire de toutes les religions, est en train, à mon avis, de faire un grand progrès. Mais il faut également rappeler que ce dont nous parlons ne relève pas seulement des principes juridiques, mais également des idéologies et d'un certain nombre de stratégies. Et je crois rappeler quand même cette donnée complexe, que pour parler des États-Unis, vous avez à la fois dans la tradition américaine valeur de défense de la liberté d'expression et la centralité de la religion dans la culture américaine. Mais vous avez en même temps dans la société américaine du fait que l'Amérique est en rapport avec le monde et qu'elle a des intérêts dans le monde, des groupes qui ont littéralement instrumentalisé à la fois ce principe, mais également ont voulu antagoniser un certain nombre de religions. Je rappelle que c'est un Américain, Huntington, qui a écrit le fameux livre sur le conflit des civilisations et des religions, et que dans le principe fondamental, le fait essentiel de son travail, c'est de dire qu'il y aura un conflit inéluctable entre l'Occident et l'Islam. Et que cette théorie a été, d'une certaine manière, instrumentalisée par un certain nombre de groupes et combattue par des intellectuels américains, mais il a occupé l'espace. Et je rappelle également que la guerre en Afghanistan a amené, c'est-à-dire l'opposition à la présence soviétique, à l'époque amené les pouvoirs américains à littéralement instrumentaliser des groupes religieux pour combattre par la religion et l'islam le matérialisme soviétique qui était au cœur de l'idéologie soviétique quand ils ont occupé l'Union soviétique. Et vous savez très bien que Ben Laden, par exemple, a été amené sur place, armé, formé dans ce contexte-là. Donc, nous sommes dans une tension complexe où les principes éthiques constitutionnels et les valeurs sont souvent en contradiction avec les stratégies politiques et idéologiques.
Merci, M. Dien. Kadiatou.
M. Dien, moi, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de l'instrumentalisation de ces libertés religieuses aujourd'hui?
Je crois crois que c'est un des éléments actuels importants qu'il faut creuser et interroger. Il n'est pas simple. Je crois que il y a une donnée lourde, c'est le retour du religieux. Le retour du religieux à la fois comme élément identitaire dans beaucoup de pays, pas seulement musulmans, mais chrétiens également. On le voit en Europe, notamment certains discours politiques sur l'identité chrétienne, etc. Évidemment, dans le monde islamique, évidemment, dans le monde bouddhiste, on le voit donc en Birmanie avec l'opposition Rohingya. Mais il y a en même temps la donnée très importante, à mon avis, très profonde, qui n'est pas souvent perçue, que dans un contexte de matérialisme de la société, développement d'une certaine matérialisation de la société et d'une idéologie libérale de consommation, etc., se développe au sein des populations dans tous les continents une quête de sens et un retour à un souci de retour à un certain nombre de valeurs. Et c'est dans ce contexte-là aussi qu'il y a un retour au religieux, non pas un religieux antagoniste, mais un retour qui serait de dire que l'homme n'est pas seulement fait de besoins matériels, mais qu'il a également des besoins spirituels qui doivent s'exprimer. Nous sommes donc dans ce contexte de tension et de transition qui traverse toutes les sociétés.
Merci, M. Dienne. Alors, un auditeur, Joselle, le Mauricien de l'autre côté de la vitre, qui avons-nous, Joselle? Allô?
Nous avons Kone Isiaka. Isiaka Kone, vous avez la parole.
Non, c'est que bon, c'est que je viens de commenter sur le journal. C'est-à-dire que la religion, c'est une religion que bon, tout le monde doit avoir la conscience en fait. Quoi. Parce que nos frères, la façon qu'ils font là, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi bon, j'ai commenté sur ça pour dire que non. Ce sont les politiciens vraiment qui gardent la religion. Puisque eux-mêmes, ils savent quelle est la vraie religion qui se passe dans ce monde actuellement-là. Mais ils ne veulent pas essayer de faire quelque chose. Voilà pourquoi, bon, comme nos leaders, bon, on est obligé de l'être, mais seulement si la religion, ils sont obligés d'accepter. Parce que tout le monde, tout à chacun, quand tu vas mourir et que tu vas te retrouver en face du bon Dieu, de ce que tu sens, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça la question dont tout le monde doit se poser. Puisque nous sommes venus ici avec des péchés. Alors nous sommes sur cette terre-là à cause des péchés. C'est pour essayer de prier pour avoir la bénédiction que Dieu nous pardonne les péchés. Mais si maintenant nous sommes ici, la sur cette terre qui nous présente du mal maintenant.
Merci.
Comment est-ce que Dieu va nous pardonner?
Merci Isiaka. Alors, Monsieur Dienne, je voudrais revenir. Vous avez parlé de la diversité religieuse aux États-Unis et du respect de la religion de tout un chacun. Mais quand on entend des gens comme Donald Trump, qu'est-ce que à l'extérieur vous pensez de tout cela? Quand il dit qu'il faudrait, à cause de ce qui s'est passé avec les organisations terroristes qui se réclament à tort de l'islam, qu'il faudrait interdire de façon temporaire l'entrée des États-Unis aux musulmans. Comment est-ce que à l'extérieur vous réagissez à ce genre de déclaration?
Ben, de deux manières. La première, c'est de revenir à l'histoire des États-Unis. Il y a toujours eu dans une certaine droite américaine, une droite, disons, identitaire, qui se réclame d'un christianisme qui est un peu sectaire, l'opposition à l'islam, qui fait partie de la construction identitaire de l'Occident et de l'Europe. Il y a cette tradition européenne-là, dans certaines couches européennes, qui a effectivement marqué aussi des groupes américains. Donc, le discours de Trump et l'avatar d'une tradition assez ancienne. Maintenant, il ne faut pas oublier également que dans un contexte international où il y a eu le 11 septembre 2001, où littéralement qui a créé un choc émotionnel très profond dans la société américaine et la peur de l'islam, parce que ceux qui ont perpétré les attentats de septembre 2001 étaient musulmans. Et tout cela a réveillé ce sentiment d'antagonisme à l'islam, mais je rappelle que ce sentiment d'antagonisme à l'islam a été théorisé avant le 11 septembre par des intellectuels comme Huntington. Donc, en même temps que dans la société américaine, la présence réelle et forte de minorités musulmanes et le fait que des chercheurs américains font partie de ceux qui ont analysé de la manière la plus profonde la pluralité de l'islam et sa complexité dans les autres sociétés fait qu'effectivement il y a ce débat. Mais les élections actuelles aux États-Unis montrent qu'effectivement ce courant-là est actuellement en force et qui est basé, je vous le rappelle, sur la peur de l'islam à cause de l'acte de septembre 2001, mais aussi d'un développement d'une idéologie politique qui a littéralement gagné un certain nombre de sociétés. Et enfin, il y a chez certains groupes américains, certains groupes, disons, fondamentalistes, une sorte d'idéologie de croisade qui est opposée, en fait, pas seulement à l'islam, mais à toute tradition religieuse différente du christianisme. Et donc, nous sommes précisément dans une époque où les tensions identitaires, mais également, je le rappelle, c'est un point qu'il faut garder à l'esprit. Il y a la remontée d'un religieux qui n'est pas un religieux antagoniste, mais une quête de foi et de sens. C'est-à-dire les gens veulent avoir des valeurs pour orienter leur vie. Et littéralement, ils veulent revenir à une pratique religieuse qui donne sens à leur vie. Ils ne sont pas politiques, mais le retour au religieux est une des données fondamentales de la société actuelle.
Merci. Merci, M. Dié. Joselle, avons-nous Bakary Keïta en ligne. Bakary, vous êtes en direct. Allez-y. Okay.
Bonsoir à vous, bonsoir à vos invités. Vraiment, je crois que c'est une décision quand même salvatrice. La liberté vraiment religieuse, c'est la force même de la religion. C'est-à-dire que chacun doit faire sa religion, c'est-à-dire les chrétiens doivent pratiquer leur religion, les musulmans doivent faire aussi autant, mais chacun quand même ne doit pas piétiner quand même sur l'autre là. C'est la force même quand même de la religion. Moi, je crois que aussi bien que dans la Bible et dans le Coran, il n'est jamais dit vraiment d'empêcher l'autre quand même de pratiquer vraiment sa religion. Alors que la religion, on n'impose pas une religion, ça dépend quand même au libre consentement, au libre jugement quand même de la personne. Il analyse s'il opte pour la religion chrétienne, on doit l'accepter comme telle, et s'il opte aussi pour le christianisme, on doit l'accepter comme telle. À mon avis, le chrétien et le musulman doivent vivre ensemble la main dans la main, c'est des frères. Et aussi, j'aimerais poser une question à votre invité. Est-ce que l'Arabie Saoudite acceptera quand même de voter une telle loi, c'est-à-dire la diversité religieuse?
Ah, très bien, Monsieur Bakary.
Très bonne question. Ça, c'est
oui.
Une bonne question.
Alors, Monsieur Dienne, vous avez entendu Bakary Keïta qui a posé la question, à savoir, très souvent, on pointe du doigt l'Arabie Saoudite en disant que l'Arabie Saoudite impose sa religion et n'accepte pas les autres religions sur son territoire. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à une...
complexifier la réalité de ce qui se passe en Arabie Saoudite. Il ne faut pas oublier que c'est le pays qui abrite le lieu central donc de l'islam, qui est la Mecque et la Kaaba, et que donc il y a une tradition religieuse extrêmement forte, le wahhabisme, qui est dominant dans cette société. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que le débat sur le pluralisme de la religion et le respect de la liberté religieuse et de la liberté d'expression traverse également la société saoudienne. Moi, je donne comme exemple, j'ai travaillé comme rapporteur spécial, j'ai promu, et je pense que ça a été un acte important, de déplacer le débat de la diffamation des religions à l'incitation à la haine religieuse dans un de mes derniers rapports. Et qu'à la suite de cela, s'est développée toute une réflexion au sein du Conseil des droits de l'homme à laquelle le département d'État et tous les gouvernements participaient pour combattre l'incitation à la haine religieuse. Et l'une des dernières réunions à laquelle j'ai participé, c'était à Jeddah au mois de juin, où nous avons discuté avec les Saoudiens, avec des gens qui venaient de tous les pays du monde, ce qu'on a appelé le protocole d'Istanbul, c'est-à-dire comment développer une stratégie internationale permettant de combattre l'incitation à la haine religieuse et défendre la liberté d'expression et la liberté de religion. Nous sommes actuellement dans ce contexte et l'Arabie Saoudite en fait partie. Je dirais aussi qu'il faut déplacer le curseur dans les autres continents. Il y a d'autres pays en Asie, nous voyons ce qui se passe actuellement en Birmanie, comme je l'ai cité, nous voyons ce qui se passe en Europe centrale notamment, où des gouvernements reviennent sur la construction d'une identité chrétienne exclusive et antagoniste de l'islam, et qui les a amenés à adopter des politiques de rejet des immigrants syriens musulmans qui venaient sur leur territoire, et des attaques qui sont faites aussi, même en Allemagne, qui a eu la politique la plus généreuse à l'égard des immigrés. Donc, le débat, il est interne à toutes les sociétés. La complexité du débat vient du fait qu'il faut à la fois refuser l'instrumentalisation du religieux, mais également défendre le principe de la liberté d'expression et la liberté de religion. Et je rappelle que dans le pacte sur les droits civils et politiques, la seule restriction qui est apportée à la liberté d'expression, c'est la prohibition de l'incitation à la haine religieuse, nationale et raciale. Donc nous sommes actuellement aussi dans ce contexte-là de dynamique, de débat qui est ouvert et public, à laquelle tout le monde participe. Et je rappelle aux auditeurs qu'il existe au sein du Conseil des droits de l'homme ce qu'on appelle le protocole d'Istanbul. Je les invite à y aller pour regarder qu'il y a une dynamique en cours et un débat est en train d'être fait. Mais le débat n'est pas simple.
Merci, Monsieur Dien. Alors, donc, il faut consulter le protocole d'Istanbul. Ça devrait nous éclairer sur ces questions de la tolérance religieuse. Alphonse Mwaki de Kinshasa. Alphonse, bonsoir.
Bonsoir, ça se dit bien.
La ligne est nettement meilleure aujourd'hui, Alphonse. Allez-y.
Pardon ?
La ligne est nettement meilleure aujourd'hui. Merci. Allez-y.
Alors, nous avons suivi dernièrement les déclarations de Donald Trump qui brigue un mandat à la présidence américaine. Ces déclarations étaient hostiles à l'entrée des musulmans aux États-Unis. Alors que les États-Unis veulent promouvoir la liberté des religions religieuses à travers le monde. Alors l'exemple de Donald Trump n'est pas c'est un président qui n'est pas recommandable par rapport aux valeurs américaines. Est-ce qu'avec une telle approche de Donald Trump, s'il est devenu président, il saura convaincre, il saura influencer le monde, surtout des pays comme l'Arabie Saoudite, de pouvoir appliquer ce principe universel?
Merci, Alphonse. Alors, Kadiatou, vous vouliez dire?
Je voulais dire que nous avons reçu des messages. Je vois un message de la Côte d'Ivoire.
Oui.
Et la personne qui dit que les religions ne doivent pas se moquer les unes des autres. Donc,
et c'est envoyé par qui?
Ça vient d'Abidjan, mais je ne vois pas le nom de la personne.
Un SMS. Merci beaucoup.
Voilà, un SMS.
Merci beaucoup. Donc, c'est une façon très directe de participer à l'émission par des coups de fil et aussi par des SMS. Alors, Valérie, allez-y.
Oui, la liberté de religion, c'est dans tous les pays comme ça. Donc, chaque pays a l'expression à la liberté de s'exprimer. Chaque religion aussi a sa liberté.
Valérie Capita, malheureusement, la ligne est très mauvaise. Mais je vais revenir à notre invité. À moins, Kadiatou, que vous ayez une question pour M. Dien.
Ma question, c'est que toute cette théorie de droit de l'homme qui se rallie maintenant aux libertés religieuses et tout, le continent, on vient de parler de continent maintenant, il y a une grande partie de l'Afrique aussi qui est musulmane. Et nous remarquons de jour en jour qu'il y a confréries africaines sont en train de politiser la religion. Et quelque chose qui est très, très mal comprise par la population, parce qu'on n'a pas été habitué à ça et tout ça. Et qu'est-ce que M. Doudou Dien pense de tout cela? Droits de l'homme, liberté religieuse en Afrique, et comment les Africains pensent de tout ça? Et toute cette théorie, maintenant...
Je crois qu'il faut rappeler que je reviens à ce donnée fondamentale qu'à cause du retour du religieux à la fois par l'instrumentalisation politique du religieux par certains groupes qui utilisent la violence, mais aussi le retour du religieux par le souhait des millions de gens de donner un sens à leur vie dans un environnement matérialisé et de baser leur vie ou leur société sur un certain nombre d'éthiques. Tout cela, effectivement, redonne une centralité à la question religieuse. Maintenant, il faut également rappeler que dans l'histoire du monde, toutes les religions ont fait face à cette tension fondamentale. Un, de respecter les valeurs universelles et la dimension humaine fondamentale du respect de la vie et du message d'amour de toutes les religions et traditions spéciales, avec le fait que toutes les religions ont rencontré le politique et que dans leur histoire, elles ont été instrumentalisées et antagonisées. Et donc, pour parler du continent africain, effectivement, vous avez Boko Haram, vous avez des groupes, mais je prétends que dans la majorité des pays africains, il y a une coexistence religieuse extrêmement importante qui vient à la fois dans certaines sociétés africaines de l'existence de valeurs, de respect du pluralisme et de la diversité, mais également d'un travail extrêmement important de la société civile des pays africains qui, en utilisant effectivement les pactes et les instruments des droits de l'homme qui engagent tous les pays,
merci.
On promu le dialogue interreligieux et la coexistence et le vivre ensemble.
Merci, Monsieur Dienne. Merci, Monsieur Dienne. C'était Monsieur Doudou Dienne, qui est rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies sur le racisme et ancien directeur de la division des politiques culturelles et du dialogue interculturel pour une culture de paix de l'UNESCO. Et c'était en compagnie aussi de notre collègue Kadiatou Traoré et de l'autre côté de la vitre, Joselle Morissin. Idrissa Seydou Dia, VOA Afrique.